Voici une question bien intéressante. Est-ce que la Bible démontre que Jésus-Christ était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Ça me fascine de voir que du temps de Moïse, longtemps avant la venue de Jésus, des tas de choses nous enseignaient concernant la personne de ce Sauveur merveilleux. Voici quelques questions que vous vous posez peut-être vous-même à ce sujet. Y avait-il quelque chose du temps de Moïse qui était une image de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme? Est-ce que les tables de la loi nous parlent de la souveraineté de Christ? Y a-t-il autre chose du temps de Moïse qui nous parle de Jésus? Pouvons-nous trouver tout le secours dont nous avons besoin en Jésus-Christ seul? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est avec nous et il a trouvé toutes les réponses que donne la Bible à nos questions d'aujourd'hui. Mais demandons premièrement à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre son précieux enseignement. Prions. Ô Seigneur, on est à tes pieds et on veut vraiment recevoir ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien par tes saintes écritures. Fais-nous du bien par ta parole et grave-la au fond de nos cœurs pour qu'on puisse la mettre en pratique pour faire ta volonté à chaque jour. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 25. Dieu y donne le plan et les devis pour la construction du tabernacle. Aujourd'hui, nous allons examiner les instructions au sujet de l'Arche de l'Alliance. À la dernière émission, nous avons vu que le tabernacle se divisait en trois sections. Premièrement, le lieu très saint avait une forme cubique, avec un arête de 10 coudées. Il abritait l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire. Un rideau séparait le lieu très saint du lieu saint, qui mesurait 20 coudées par 10 coudées, par 10 coudées de hauteur. On y trouvait le chandelier d'or, la table des pains de proposition, ainsi que l'autel des parfums. Dans la cour extérieure, qui avait 100 coudées de long, 50 de large, et qui est entourée d'une clôture de 5 coudées de haut, on avait aménagé un autel d'airain ainsi qu'une cuve d'airain. Chers amis, lisons les instructions pour la fabrication de l'Arche de l'Alliance. Débutons notre lecture. Exode, chapitre 25, verset 10. « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. » Quelle était la longueur d'une coudée? Les opinions varient de 30 à 75 centimètres. À l'époque, il ne devait pas y avoir de mètre. Alors on se servait de la longueur entre le bout du majeur au coude. Cela revient à environ 45 centimètres. Puisque ce n'est pas tout le monde qui avait la coudée de la même longueur, cela explique peut-être pourquoi les opinions divergent. Donc, la coudée devait être environ 45 centimètres. Et je crois que nous pouvons nous entendre sur cette mesure. Donc, le tabernacle, proprement dit, qui avait 30 coudées par 10 coudées, mesurait 13,5 mètres par 4,5 mètres environ. Par contre, si vous faites le calcul, l'arche devait mesurer environ 114 centimètres par 70 centimètres. Maintenant, je vais donner les mesures en coudées. Si vous désirez les avoir dans le système métrique, je vous laisse faire le calcul. Exode, chapitre 25, versets 11 à 13. « Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. C'est dans le lieu très saint, sur le propitiatoire monté sur l'arche, que Dieu manifestait sa présence à Israël. C'est là que le sacrificateur approchait Dieu au nom du peuple. Seul le sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint, et seulement pour y apporter le sang du sacrifice. Le premier article de mobilier est l'arche. Donc, nous examinons le tabernacle du point de vue de Dieu, de l'intérieur vers l'extérieur. Si nous l'examinions du point de vue de l'homme, nous entrerions par la porte et nous verrions premièrement l'autel d'airain ainsi que la cuve. Nous passerions ensuite au lieu saint, mais seul le sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint, et cela une fois par année. Il y apportait du sang dont il aspergeait le propitiatoire. Le tabernacle est une image de Christ. Vous et moi approchons Dieu au moyen d'un médiateur qui est Jésus-Christ. Dieu a donné des plans conçus pour faciliter les déplacements dans le désert. Le tabernacle était monté lorsque Israël installait son camp à un endroit où il était démonté lors des déplacements. Les anneaux et les barres permettaient de transporter le tout facilement. Tout était fait d'une façon ordonnée. Le propitiatoire qui servait de couvercle à l'arche était considéré comme une pièce de mobilier différente. Chapitre 25, versets 17 à 19, toujours du livre d'Exode. « Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. » Notez bien ce que Dieu dit. Verset 20. « Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. » Les chérubins regardent dans quelle direction? Vers le propitiatoire. Versets 21 et 22. « Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » L'arche était une caisse recouverte d'or, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle était fabriquée de bois d'acacia, un bois reconnu pour sa durabilité et sa résistance. L'arche est le symbole idéal de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu fait homme. L'or représentait sa divinité et le bois son humanité. Jésus-Christ était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Nous ne pouvions pas parler de l'arche comme d'une caisse de bois, parce qu'elle était aussi une caisse d'or. De même, nous ne pouvions pas parler de l'arche comme étant strictement une caisse d'or, puisqu'elle était aussi fabriquée de bois. Il fallait l'or et le bois pour symboliser Christ, Dieu fait homme. Le bois ne se confondait pas avec l'or, et la divinité de Christ n'est pas confondue avec son humanité. Comment une personne peut se retrouver à la fois avec une nature divine, une autre nature humaine? C'est un des grands mystères de la foi. Cependant, l'arche est un symbole très simple pour décrire l'union de la nature divine et la nature humaine dans un même corps. Une simple boîte fabriquée d'or et de bois illustre un mystère insondable. Vraiment, Dieu utilise des choses simples pour confondre les sages. Cette boîte illustre tout ce que l'homme peut comprendre du mystère de la personne de Jésus-Christ. L'arche était entièrement couverte d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, nous lisons « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus-Christ n'était pas simplement un faiseur de miracles, pas plus qu'il n'était un homme avec une conscience exceptionnelle de Dieu. Il était Dieu, et lorsqu'il parlait, c'était Dieu qui parlait. Il s'est présenté comme étant l'égal de Dieu. L'évangéliste Jean nous rapporte ses propos. Jean, chapitre 14, versets 1 et 9. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui, chers amis, Jésus était parfaitement Dieu. Mais Jésus était aussi parfaitement homme. Il s'épuisait. Il s'est assis à un puits en Samarie pour se reposer pendant la chaleur du jour. Il a dormi, il a mangé, il a bu, il a ri, il a pleuré. Et après tout cela, il a souffert. Il est mort. Ce sont là des attributs humains. L'or et le bois de l'arche étaient nécessaires pour un symbole complet, mais notez que les deux matériaux n'étaient pas mélangés. La nature d'un matériel n'était pas perdue dans l'autre. Christ était à la fois entièrement Dieu et entièrement homme, mais les deux natures ne furent jamais fondues l'une dans l'autre. Christ n'a jamais fonctionné à la fois comme Dieu et comme homme. Ce qu'il faisait était soit entièrement humain, soit entièrement divin. L'arche n'était pas une simple boîte vide. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 4, nous donne la liste des trois objets qui s'y trouvaient. Renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Le contenu de l'arche était aussi très symbolique. La verge d'Aaron qui avait fleuri est une image de la résurrection du Seigneur. La manne nous rappelle que Christ est le pain de vie. Les 10 commandements nous parlent du fait que Christ a accompli parfaitement la loi pour nous et qu'il a aussi accompli les prophéties le concernant. Les tables de la loi nous parlent de la souveraineté de Christ. Christ fut né roi. Il a vécu roi. Il est mort roi. Et il est ressuscité roi. Il revient pour régner. Le plan de Dieu s'accomplit aujourd'hui, comme il se fait depuis l'éternité, et qu'il se fera lorsque Christ règnera sur cette terre. La terre a besoin d'un souverain. L'homme a besoin d'un roi, sinon c'est l'anarchie totale. Un jour, il se présentera en tant que roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le vase de manne nous rappelle que Christ est prophète. Il parlait au nom de Dieu, comme nous l'indique l'apôtre Jean. Jean chapitre 6, verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » De plus, Jésus-Christ était le message de Dieu à l'humanité. Il était le Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'alpha et l'oméga. Il est le dernier message de Dieu à l'homme. Depuis que Christ, pleinement Dieu et pleinement homme, est venu, le ciel est silencieux, car Dieu ne prévoit plus faire aucune autre ou nouvelle révélation. Christ est la lettre que Dieu nous envoie, et il n'y ajoutera pas de post-scriptum. Dieu nous a révélé entièrement son cœur en la personne de Jésus-Christ. La verge d'Aaron, celle qui a fleuri, nous parle de Christ dans son rôle de prêtre. Le prophète a parlé à l'humanité au nom de Dieu. Le prêtre représente l'homme auprès de Dieu. Comme prêtre, Christ s'est offert lui-même en sacrifice. Comme prêtre, il est entré au ciel, il y est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a ressuscité des morts, il est un exemple unique de la résurrection. Chers amis, les fleurs de Pâques, les œufs, les cocos en chocolat ne parlent pas de la résurrection, mais la verge fleurie d'Aaron le fait. Sa verge est un vieux bâton de bois mort qui a retrouvé la vie. L'arche nous parle de Christ dans ses rôles de roi, de prophète et de prêtre. Je vous cite un texte du Nouveau Testament. L'évangéliste Jean, chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le propitiatoire était placé sur le dessus de l'arche. Même s'il servait de couvercle à l'arche, c'était une pièce de mobilier différente. Il était fait entièrement d'or avec des chérubins à chaque extrémité. Leurs ailes étendues couvraient le propitiatoire. Les anges avaient la face tournée vers le propitiatoire afin d'y voir le sang aspergé sur celui-ci. C'est là, en effet, que le grand prêtre aspergeait le sang du sacrifice. C'est le sang qui faisait du meuble un propitiatoire. Ce propitiatoire était aussi un symbole de l'œuvre de Christ. Christ a littéralement présenté son sang au ciel après sa mort sur la croix. Le sang de Christ est très précieux. C'est l'adjectif qu'emploie l'apôtre Pierre dans une de ses lettres, 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Christ est plus précieux que l'or et l'argent. La chose la plus précieuse au ciel est le sang que Christ a versé pour les pécheurs. Il a présenté son sang en retournant au ciel. Et c'est ce qui fait du trône de Dieu notre propitiatoire, en plus d'être le trône de la grâce. Nous sommes invités à revenir à Dieu, aujourd'hui, sur la base du sang que Jésus-Christ, notre grand prêtre, a versé pour nous. Écoutez cette invitation, que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Chers amis, que faites-vous de cette invitation divine et céleste? Vous et moi, nous nous approchons de Dieu par notre grand prêtre dans le ciel. Christ vit, et il est assis à la droite de Dieu le Père dans le ciel. Par lui, nous obtenons secours et miséricorde. De nombreux croyants essaient de lutter ici-bas sur terre avec leurs propres forces. Ils essaient de faire face seuls à la vie, mes amis. Nous ne pouvons faire cela. Ça ne réussira pas. Nous n'avons pas la force nécessaire. Nous avons besoin d'aide. Nous nous entêtons et nous n'utilisons pas l'aide que Christ nous propose. L'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens afin que la puissance de Dieu, celle qui a agi afin de ramener Christ d'entre les morts, soit aussi à l'œuvre parmi eux. Éphésiens chapitre 1, versets 19 et 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Chers amis, nous voyons très peu de cette puissance à l'œuvre parmi les croyants aujourd'hui. Nous devons nous l'approprier par la foi, parce que nous avons un grand prêtre qui se tient à la droite de Dieu. Le grand prêtre, qui aspergeait le sang sur le propitiatoire, en ressortait aussitôt que sa tâche était accomplie. Christ, notre grand prêtre, lorsqu'il a présenté son offrande, s'est assis à la droite de Dieu, et il y est encore aujourd'hui afin d'intercéder pour nous. Il est mort ici-bas pour nous sauver, et il vit au ciel pour nous garantir notre vie éternelle. Nous devrions demeurer en contact avec notre Sauveur. Lui avez-vous parlé aujourd'hui? Avez-vous prié ce matin et à quelques reprises au cours de votre journée? Vous y avez accès si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Est-il devenu votre prêtre? Peut-il vous représenter devant Dieu? Par son sacrifice, mes amis, si vous avez négligé votre vie de prière, je vous encourage fortement à communiquer quotidiennement avec votre Sauveur. À la prochaine émission, nous allons examiner le mobilier du lieu saint, soit la table des pains de proposition et le chandelier d'or. Ensuite viendra l'autel de parfum. Et après avoir examiné le lieu très saint, nous traversons le voile pour nous retrouver dans le lieu saint. Nous allons de l'intérieur vers l'extérieur du tabernacle. Chers amis, nous sommes devant la plus belle des propositions que jamais un être humain n'eût reçue, celle de venir à Dieu. Plusieurs textes dans la parole de Dieu nous lancent cette invitation. Nous avons lu un peu plus tôt celle qui se retrouvait dans le texte de l'Épître aux Hébreux. Mais lisons celle que nous retrouvons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est encore la belle invitation du prêtre, du sacrificateur qui est le Christ, à aller nous décharger sur lui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est venu pour porter notre fardeau, porter notre péché. C'est pour cela qu'il est le médiateur, le seul, l'unique en son genre. C'est ce que nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons retracer tout l'accomplissement de la loi et de la volonté divine. Christ est celui qui, devant le grand juge, peut vous représenter et vous libérer de la condamnation qui pèse déjà sur vous. Prochaine émission, Exode chapitre 25, verset 23 à chapitre 26, verset 14.
Merci, Régent. Je trouve ça extraordinaire de voir tout ce que Dieu nous enseignait du temps de Moïse concernant la venue de Jésus sur cette terre. On peut voir par l'enseignement d'aujourd'hui à quel point la venue de Jésus était importante pour l'humanité entière. Régent nous partageait il y a quelques minutes que Jésus était mort pour nous sauver et qu'il vit au ciel pour nous garantir la vie éternelle. C'est tellement rassurant de savoir ça. Du moins, c'est rassurant pour ceux qui ont obtenu le cadeau qu'il offre à l'humanité entière. Mon ami, as-tu reçu ce cadeau? As-tu reçu le don gratuit de la vie éternelle? C'est pas un cadeau qu'on obtient automatiquement à notre naissance. On l'obtient pas parce qu'on pratique notre religion. On le reçoit pas parce qu'on a tellement souffert qu'on mériterait bien d'aller au ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais Dieu a tellement aimé toutes ses créatures qu'il a donné son Fils unique. Ce Jésus merveilleux dont Régent nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Oui, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe qui tu es, tu peux être ce quiconque. Alors toi, mon ami Jacques, Jean, Stéphane, Marie, Caroline, Louise, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus. Et Jésus a donné sa vie. Il est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché. Tu as juste à croire en lui. Tu n'as qu'à avouer que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Demande à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et si tu as déjà reçu ce cadeau, est-ce que tu as parlé au Seigneur aujourd'hui? Dieu veut avoir une belle relation avec toi. Il s'attend à ce que tu lui parles, à ce que tu lui fasses part de tous tes besoins, à ce que tu le remercies aussi pour tout ce qu'il te donne, pour tout ce qu'il va faire pour toi, ce qu'il a fait, ce qu'il fait présentement. Le Seigneur t'aime. Alors, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, où es-tu en ce moment? Es-tu dans ta chambre avec ton petit radio réveil près de ton oreille? Es-tu dans la douleur à cause de quelque chose qui se passe dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un qui t'a abandonné? As-tu perdu ton emploi? Mais il faut pas que tu imagines que ce sont ces choses-là qui te rendent vraiment malheureux. Ce qui rend l'être humain malheureux, c'est sa séparation d'avec Dieu. Et Dieu veut être là pour toi en tout temps. Il veut te consoler quand quelqu'un t'abandonne. Il veut te soutenir quand tu es dans une épreuve quelconque. Il veut devenir ton Dieu. Alors, laisse Dieu entrer dans ton cœur. Aujourd'hui même, avoue que tu es un pécheur perdu, que tu es indigne de son royaume. Et laisse Dieu entrer dans ta vie. Laisse-le te sauver, te donner la vie éternelle. Il veut te donner ce beau cadeau aujourd'hui même, gratuitement. En toute douceur, Jésus, qui est doux et humble de cœur, veut devenir ton maître, ton roi.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.